Chapitre 21. Le conte des trois frères. Harry se tourna vers Ron et Hermione. Ils ne semblaient pas avoir compris mieux que lui ce que Xenophilius venait de dire. Les reliques de la mort ?
C'est cela, répondit Xenophilius. Vous n'en avez jamais entendu parler ? Oh, ça ne me surprend guère. Les sorciers qui y croient sont très, très rares. Prenez par exemple ce jeune imbécile qui se trouvait au mariage de votre frère.
Il adressa un signe de tête à Ron.
Il m'a attaqué parce que je portais ostensiblement le symbole d'un sorcier bien connu pour ses pratiques de magie noire. Quelle ignorance! Il n'y a aucune magie noire dans les reliques. En tout cas, pas dans ce sens primaire. On utilise simplement ce symbole pour se révéler auprès de ceux qui y croient, dans l'espoir qu'ils puissent aider à la quête.
Il fit fondre plusieurs morceaux de sucre dans son infusion de rafgourde et en but un peu. « Je suis désolé, dit Harry, mais je ne comprends pas vraiment. » Par politesse, il but une gorgée du contenu de sa tasse et faillit s'étouffer. Le breuvage était répugnant. On avait l'impression d'avaler sous une forme liquide des dragées surprises de Bertie Crochu parfumées à la crotte de nez.
« Eh bien, voyez-vous, ceux qui croient sont à la recherche des reliques de la mort, »
expliqua Xenophilius en faisant claquer ses lèvres apparemment ravies de son infusion de rafgourde.
« Mais c'est quoi les reliques de la mort ?» interrogea Hermione.
Xenophilius posa sa tasse vide.
« J'imagine que vous connaissez tous le conte des trois frères. »
Harry répondit non, mais Ron et Hermione dirent tous les deux oui. Xenophilius hocha la tête d'un air grave.
« Eh bien, monsieur Potter, tout commence par le conte des trois frères. Je dois en avoir un exemplaire quelque part. »
Il jeta un vague coup d'œil aux piles de livres et de parchemins qui l'entouraient. Mais Hermione annonça aussitôt
« J'ai le livre, monsieur Lovegood. Je l'ai avec moi. »
Elle sortit de son sac en perles les contes de Biddle le Barde.
« L'original ?»
s'enquit Xenophilius d'un ton brusque. Hermione acquiesça d'un signe de tête et il ajouta
« Dans ce cas, pourquoi ne pas nous le lire à haute voix ? C'est le meilleur moyen pour que nous comprenions tous de quoi il s'agit. »
« D'accord, » dit Hermione, un peu inquiète.
Elle ouvrit le livre et Harry vit que le symbole dont il recherchait le sens figurait précisément en haut de la page où débutait le conte. Hermione tout sauta et commença la lecture.
Il était une fois trois frères qui voyageaient au crépuscule le long d'une route tortueuse et solitaire.
« Quand elle le racontait, maman disait que ça se passait à minuit, »
fit remarquer Ron, qui avait allongé les jambes et ses bras derrière la tête pour écouter. Hermione lui jeta un regard agacé.
« Oh, désolé, je pense simplement que c'est un peu plus effrayant si ça se passe à minuit, » insista Ron.
« Justement, ça tombe bien. Il n'y a pas assez de choses effrayantes dans notre vie, » coupa Harry, sans avoir pu s'en empêcher.
Xenophilius ne semblait pas leur prêter grande attention. Il regardait par la fenêtre, les yeux levés vers le ciel.
« Vas-y, Hermione, » dit Harry. Après avoir longtemps cheminé, ils atteignirent une rivière trop profonde pour la traverser à gué et trop dangereuse pour la franchir à la nage. Les trois frères, cependant, connaissaient bien l'art de la magie. Aussi, d'un simple mouvement de baguette, ils firent apparaître un pont qui enjambait les eaux redoutables de la rivière. Ils étaient arrivés au milieu du pont lorsqu'une silhouette encapuchonnée se dressa devant eux en leur interdisant le passage. C'était la mort, et elle leur parla.
« Excuse-moi, » l'interrompit Harry. « La mort leur parla ? » ?»«
Il s'agit d'un conte de fées, Harry. »«
Ah d'accord, oui, désolé, continue. »
C'était la mort, et elle leur parla. Elle était furieuse, d'avoir été privé de 3 victimes, car d'habitude, les voyageurs se noyaient dans la rivière. Mais elle était rusée.
Elle fit semblant de féliciter les 3 frères pour leur talent de magicien et leur annonça que chacun d'eux avait droit à une récompense pour s'être montré si habile à lui échapper. Le plus âgé des frères, qui aimait les combats, lui demanda une baguette magique plus puissante que toutes les autres. Une baguette qui garantirait toujours la victoire à son propriétaire dans tous les duels qu'il livrerait. Une baguette digne d'un sorcier qui avait vaincu la mort. La mort traversa alors le pont et s'approcha d'un sureau sur la berge de la rivière. Elle fabriqua une baguette avec l'une des branches et en fit don à l'aîné. Le deuxième frère, qui était un homme arrogant, décida d'humilier la mort un peu plus et demanda qu'elle lui donne le pouvoir de rappeler les morts à la vie. La mort ramassa alors une pierre sur la rive et la donna au deuxième frère en lui disant que cette pierre aurait le pouvoir de ressusciter les morts. Elle demanda ensuite au plus jeune des 3 frères ce qu'il désirait. C'était le plus jeune, mais aussi le plus humble et le plus sage des 3, et la mort ne lui inspirait pas confiance. Aussi demanda-t-il quelque chose qui lui permettrait de quitter cet endroit sans qu'elle puisse le suivre. À contre-cœur, la mort lui tendit alors sa propre cape d'invisibilité.
La mort a une cape d'invisibilité, l'interrompit Harry.
Pour s'approcher des temps sans être vue, expliqua Ron. Parfois, elle en a assez de se précipiter sur ses victimes en agitant les bras et en poussant des cris. Désolé, Hermione.
Puis, elle s'écarta et autorisa les 3 frères à poursuivre leur chemin, ce qu'ils firent, s'émerveillant de l'aventure qu'ils venaient de vivre et admirant les présents que la mort leur avait offerts. Au bout d'un certain temps, les 3 frères se séparèrent, chacun se dirigeant vers sa propre destination. L'aîné continua de voyager pendant plus d'une semaine et arriva dans un lointain village. Il venait y chercher un sorcier avec lequel il avait eu une querelle. À présent, bien sûr, grâce à la baguette de sureau, il ne pouvait manquer de remporter le duel qui s'ensuivit. Laissant son ennemi mort sur le sol, l'aîné se rendit dans une auberge où il se vanta haut et fort de posséder la puissante baguette qu'il avait arrachée à la mort en personne. Une baguette qui le rendait invincible, affirmait-il. Cette même nuit, un autre sorcier s'approcha silencieusement du frère aîné qui dormait dans son lit, abruti par le vin. Le voleur s'empara de la baguette et, pour faire bonne mesure, trancha la gorge du frère aîné. Ainsi, la mort prit-elle le premier des 3 frères. Pendant ce temps, le deuxième frère rentra chez lui, où il vivait seul. Là, il sortit la pierre qui avait le pouvoir de ramener les morts et la tourna 3 fois dans sa main. À son grand étonnement, et pour sa plus grande joie, la silhouette de la jeune fille, qu'il avait un jour espéré épouser avant qu'elle ne meure prématurément, apparut aussitôt devant ses yeux. Mais elle restait triste et froide, séparée de lui comme par un voile. Bien qu'elle fût revenue parmi les vivants, elle n'appartenait pas à leur monde et souffrait de ce retour. Alors, le deuxième frère, rendu fou par un désir sans espoir, finit par se tuer pour pouvoir enfin la rejoindre, véritablement. Ainsi, la mort prit-elle le deuxième des 3 frères. Pendant de longues années, elle chercha le troisième frère et ne put jamais le retrouver. Ce fut seulement lorsqu'il eut atteint un grand âge que le plus jeune des 3 frères enleva sa cape d'invisibilité et la donna à son fils. Puis il accueillit la mort comme une vieille amie qu'il suivit avec joie et, tels des égaux, ils quittèrent ensemble cette vie.
Hermione referma le livre, et Xenophilius mit un certain temps à s'apercevoir qu'elle avait fini de lire.
Il détourna son regard alors de la fenêtre et dit
« Voilà, c'est ça !»«
Pardon ?» demanda Hermione, perplexe.
« Ce sont les reliques de la mort !» répondit Xenophilius.
Il prit une plume à côté de lui, sur une table surchargée, et tira d'entre deux livres un morceau de parchemin déchiré.
« La baguette de Sureau ?»
dit-il. Il dessina un trait vertical.
« La pierre de résurrection ?»
Il traça un cercle autour du trait.
« La cape d'invisibilité !» acheva-t-il.
Il enferma le cercle et le trait vertical dans un triangle, reconstituant ainsi le symbole qui intriguait tant Hermione.
« Voici rassemblées les reliques de la mort !»«
Mais on ne parle à aucun moment de reliques de la mort dans l'histoire !» fit remarquer Hermione.
« Bien sûr que non !»
répliqua Xenophilius, avec un petit air supérieur parfaitement exaspérant.
« Il s'agit d'un conte pour enfants qu'on raconte pour amuser plutôt que pour instruire. Mais ceux d'entre nous qui comprennent ces questions-là savent que cette ancienne histoire fait référence à ces trois objets ou reliques qui, si on les réunit, feront de leur possesseur le maître de la mort. »
Il y eut un bref silence, pendant lequel Xenophilius regarda à nouveau par la fenêtre. Le soleil était déjà descendu sur l'horizon.
« Luna devrait avoir suffisamment de boulus à l'heure qu'il est, »
murmura-t-il.
« Quand vous dites le maître de la mort, » commença Ron.
« Maître, enfin, vainqueur, quoi, conquérant. Choisissez le terme qui vous convient, »
coupa Xenophilius avec un geste désinvolte de la main.
« Dans ce cas, vous voulez dire que vous y croyez ?»
reprit Hermione. Elle parlait lentement, et Harry voyait qu'elle essayait d'effacer de sa voix toute trace de scepticisme.
« Que vous croyez à l'existence réelle de ces objets, de ces reliques ?»
Xenophilius haussa à nouveau les sourcils.
« Bien sûr !»«
Mais !»
poursuivit Hermione, et Harry sentit qu'elle avait de plus en plus de mal à se maîtriser.
« Monsieur Lovegood, comment pouvez-vous croire ?»«
Luna m'a tout raconté à votre sujet, jeune fille !»
trancha Xenophilius.
« Vous ne manquez pas, je pense, d'une certaine intelligence, mais vous êtes terriblement limitée, étriquée, étroite d'esprit.
Tu devrais peut-être essayer le chapeau, Hermione ?»
suggéra Ron en montrant d'un signe de tête la coiffe ridicule de la sculpture. Sa voix tremblait sous l'effort qu'il devait faire pour ne pas éclater de rire.
« Monsieur Lovegood, » insista Hermione, « nous savons tous qu'il existe des choses telles que les capes d'invisibilité. Elles sont rares, mais réelles. En revanche... »«
Oh ! Mais là, la troisième relique est une véritable cape d'invisibilité, Miss Granger. Je veux dire par là qu'il ne s'agit pas d'une cape de voyage imprégnée d'un sortilège de désillusion, ou porteuse d'un maléfice, d'aveuglement, ou encore tissée en poil de demi-guise. Ce genre de cape peut en effet dissimuler quelqu'un, hein, au début, mais ses vertus s'estompent avec le temps, et elle finit par devenir opaque. Je vous parle d'une cape qui rend réellement et totalement invisible et dont les effets durent éternellement, offrant à son détenteur une cachette permanente, impénétrable, quels que soient les sorts qu'on lui jette. Combien de capes de cette nature avez-vous déjà vues, Miss Granger ?
Hermione ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma plus décontenancée que jamais. Harry et Ron se regardèrent et Harry sut qu'ils pensaient tous la même chose. Le hasard voulait qu'il y eût en cet instant dans la pièce une cape répondant exactement à la description donnée par Xenophilius.
« Je ne vous le fais pas dire !»
reprit celui-ci, comme s'il venait de les écraser par des arguments raisonnés.
« Aucun d'entre vous n'a jamais vu une chose pareille. Celui qui la posséderait serait immensément riche, ne croyez-vous pas ?»
Il regarda à nouveau par la fenêtre. Le ciel se nuançait, à présent d'une teinte rose, à peine perceptible.
« Très bien, »
dit Hermione déconcertée.
« Admettons que la cape existe, mais la pierre, monsieur Lovegood ?»« ce que vous appelez la pierre de résurrection.
Et alors?
Eh bien, comment pourrait-elle exister?
Prouvez-moi plutôt qu'elle n'existe pas,
rétorqua Xenophilius. Hermione parut scandalisée.
Enfin, voyons, je suis désolée, mais c'est complètement ridicule. Comment voulez-vous que je puisse prouver qu'elle n'existe pas? Vous voudriez peut-être que je ramasse toutes les pierres du monde et que je les soumette à des tests? Si on en va par là, on peut affirmer que toute chose existe, s'il suffit pour y croire que personne n'ait jamais réussi à démontrer qu'elle n'existait pas.
Oui, on peut, assura Xenophilius. Je suis content de voir que votre esprit commence à s'ouvrir.
Alors, la baguette de sureau,
dit précipitamment Harry, avant qu'Hermione ait pu répondre.
Vous pensez qu'elle existe aussi?
Oh, dans son cas, il y a un nombre infini de preuves, répliqua Xenophilius. La baguette de sureau est celle des trois reliques dont il est le plus facile de retrouver la trace, étant donné la manière dont elle passe de main en main.
C'est-à-dire? Demanda Harry.
C'est-à-dire que celui qui veut posséder la baguette doit s'en emparer en la prenant à son précédent propriétaire, pour en être véritablement le maître,
expliqua Xenophilius.
Vous avez sûrement entendu parler de la façon dont la baguette est revenue à Egbert le Magnifique après qu'il eut massacré Éméric le Mauvais, ou comment Godelotte est mort dans sa propre cave après que Hervard, son fils, la lui eut arrachée. Vous avez aussi entendu parler de l'épouvantable Loxias qui a tué Barnabas d'Evril et lui a pris à son tour la baguette. La piste sanglante de la baguette de sureau a éclaboussé les pages de l'histoire de la sorcellerie.
Harry jeta un coup d'œil à Hermione. Elle observait Xenophilius, les sourcils froncés, mais ne chercha pas à le contredire. « Et à votre avis, où se trouve la baguette de sureau maintenant ?» interrogea Ron.
« Hélas, qui peut le savoir ?»
se lamenta Xenophilius en regardant par la fenêtre.
« Qui sait où elle se cache ? La piste s'arrête avec Arcus et Livius. Qui peut dire lequel d'entre eux a vaincu Loxias et lequel a pris la baguette ? Et qui sait par quelles mains ils ont été eux-mêmes vaincus? L'histoire, hélas, ne nous le révèle pas. »
Il y eut un silence. Enfin, Hermione demanda avec raideur.
« Monsieur Lovegood, la famille Peverell a-t-elle quoi que ce soit à voir avec les reliques de la mort ?»
Xenophilius parut interloqué, et quelque chose remua dans la mémoire de Harry. Mais il n'aurait su dire quoi. Peverell? Il avait déjà entendu ce nom.
Oh! Vous m'avez induit en erreur, jeune fille!
S'exclama Xenophilius, qui s'était à présent redressé dans son fauteuil et contemplait Hermione avec des yeux ronds.
Je croyais que vous ne savez rien de la quête des reliques. Nombre de ceux qui se sont lancés dans cette quête sont convaincus que les Peverell ont tout, absolument tout, à voir avec les reliques.
« Qui sont les Peverell ? »
interrogea Ron.
« C'était le nom qui figurait sur la tombe où il y avait la marque, à Godric's Hollow, répondit Hermione, sans quitter Xenophilius des yeux. « Ignotus Peverell. »
« Exactement !»
dit Xenophilius, l'index levé d'un air pédant.
« Le signe des reliques de la mort sur la tombe d'Ignotus est une preuve concluante. »«
Mais une preuve de quoi ?» s'étonna Ron.
« Eh bien, la preuve que les trois frères de l'histoire étaient en fait les frères Peverell, Antioche, Cadmus et Ignotus, que c'étaient eux les premiers possesseurs des reliques. »
Après avoir jeté un nouveau regard par la fenêtre, il se leva, reprit le plateau et se dirigea vers l'escalier en colimaçon.
« Voulez-vous rester dîner ? »
lança-t-il en descendant les marches.
« Tout le monde nous demande toujours notre recette de soupe au boulus d'eau douce. »«
Sans doute pour la communiquer au service des poisons de Sainte-Mangouste, »
chuchota Ron. Avant de parler, Harry attendit d'entendre Xenophilius s'affairait dans la cuisine du rez-de-chaussée. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il à Hermione.
Oh, Harry, répondit-elle d'un ton las, ce sont de pures et simples idioties. Le cygne ne veut sûrement pas dire ça. C'est sa façon bizarre de l'interpréter. Oh, quelle perte de temps.
J'imagine qu'il a inventé lui-même les ronflactes cornus, dit Ron.
Tu n'y crois pas non plus ? Interrogea Harry.
Non. Cette histoire est simplement un de ces trucs qu'on raconte aux enfants pour leur faire des leçons de morale. Ne cherchez pas les ennuis, ne vous battez pas, ne vous mêlez pas de choses auxquelles il vaut mieux ne pas toucher. Gardez un profil bas, occupez-vous de vos affaires et tout ira bien. Si on y réfléchit, ajouta Ron, c'est peut-être à cause de cette histoire que les baguettes de sureau ont la réputation de porter malheur.
De quoi tu parles ?
De l'une de tes superstitions, tu sais bien, le genre sorcière qui emmène à qui aura un moldu pour mari, ou maléfice du crépuscule à minuit sera nul, ou baguette de sureau, toujours un fléau. Vous les avez sûrement entendus, ma mère en connaît plein.
Harry et moi avons été élevés par des moldus, lui rappela Hermione. On nous a appris d'autres superstitions.
Elle poussa un profond soupir, tandis qu'une odeur plutôt âcre montait de la cuisine. Son exaspération à l'égard de Xenophilius avait eu un effet positif. Elle avait oublié qu'elle en voulait à Ron.
« Je crois que tu as raison, lui dit-elle. C'est juste un conte moral. On voit tout de suite quel est le meilleur cadeau, celui qu'on devrait choisir. » Tous trois parlèrent en même temps. Hermione dit « La cape, Ron, la baguette. » Harry, la pierre. Ils se regardèrent, moitié surpris, moitié amusés.
« On est censé choisir la cape, » expliqua Ron à Hermione. « Mais on n'aurait pas besoin d'être invisible si on avait la baguette. Voyons, Hermione, une baguette qui rend invincible. »«
On a déjà une cape d'invisibilité, » dit Harry.
« Et elle nous a beaucoup aidés, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, »
s'exclama Hermione. « Alors que la baguette ne nous aurait attiré que des ennuis.
Seulement si on l'avait crié sur les toits, objecta Ron. Si on avait été suffisamment crétin pour se promener partout en la brandissant au-dessus de notre tête et en chantant « J'ai une baguette qui me rend invincible, venez donc vous y frotter si vous vous croyez suffisamment costaud. » Mais du moment qu'on ferme son clapet...
Mais la question est de savoir si tu serais capable de fermer ton clapet, répliqua Hermione d'un air sceptique.
La seule chose vraie qu'il nous est dite, c'est que les histoires de baguettes plus puissantes que les autres existent depuis des siècles.
Ah bon ? Dit Harry.
Hermione sembla exaspérée. Son expression était pour eux si familière, si attendrissante, que Harry et Ron échangèrent un sourire.
Le bâton de la mort, la baguette de la destinée. Elles apparaissent sous différents noms selon les époques et appartiennent généralement à des mages noirs qui se vantent de les posséder. Le professeur Binns a mentionné certaines d'entre elles, mais tout ça n'a aucun sens. Il y a toujours eu des sorciers pour se vanter d'avoir une baguette plus grande et meilleure que les autres.
Mais comment peux-tu être sûr, reprit Harry, que ces baguettes, le bâton de la mort et la baguette de la destinée, ne sont pas finalement une seule et même baguette qui revient sous différents noms au cours des siècles.
Et s'il s'agissait vraiment de la baguette de sureau fabriquée par la mort, suggéra Ron.
Harry éclata de rire. L'étrange idée qui lui était venue en tête était en fait ridicule. Sa baguette, se répétait-il à lui-même, était en bois de houx, non pas de sureau. Et elle avait été fabriquée par Ollivander, quoiqu'elle ait pu faire la nuit où Voldemort l'avait poursuivie dans le ciel. D'ailleurs, si elle avait été invincible, comment aurait-elle pu se casser ?
Et toi, pourquoi as-tu choisi la pierre ? Lui demanda Ron.
Si on pouvait faire revenir les morts, on aurait revu Sirius, Folleuil, Dumbledore, mes parents.
Ron et Hermione n'eurent pas le moindre sourire.
Mais si on en croit Biddle le barde, il n'aurait pas eu envie de revenir, poursuivit Harry en repensant au conte qu'il venait d'entendre.
J'imagine qu'il n'y a pas eu beaucoup d'autres histoires sur une pierre capable de ressusciter les morts, dit-il à Hermione.
Non, en effet, répondit-elle avec tristesse.
À part M. Lovegood, je ne vois pas qui d'autre pourrait croire à une chose pareille.
Biddle s'est sans doute inspiré de la pierre philosophale, mais
Au lieu d'une pierre qui rend immortelle, il en a imaginé une qui fait revenir les morts. L'odeur qui montait de la cuisine devenait de plus en plus forte. On aurait cru que quelqu'un faisait brûler du linge de corps. Harry se demanda s'ils arriveraient à manger une quantité suffisante de ce que préparait Xenophilius pour ne pas le vexer.
« Et la cape, alors ?» demanda lentement Ron.
« Tu crois pas qu'il a raison ?»«
Je me suis tellement habitué à la cape de Harry et à cet effet extraordinaire que je n'ai pas pris le temps de me poser la question. Je n'ai jamais entendu parler d'une autre cape semblable. Elle est infaillible. Jamais personne ne nous a repérés quand nous la portions. »
« Bien sûr que non. Nous devenons invisibles lorsque nous sommes dessous, Ron.
Mais tout ce qu'il a raconté sur les autres capes, qu'on ne trouve pas pour trois noises, la douzaine entre parenthèses, tu sais bien que c'est vrai. Je n'y avais pas pensé avant, mais j'ai entendu des tas de choses sur les capes qui perdent leur propriété avec le temps ou qui ont des trous parce qu'un sortilège les a déchirés. Celle de Harry, en revanche, appartenait déjà à son père. Elle n'est donc pas vraiment neuve. Et pourtant, elle est restée... parfaite.
Oui, d'accord, Ron, mais la pierre.
Pendant qu'ils discutaient, Harry déambula dans la pièce, n'écoutant qu'à moitié. Lorsqu'il arriva devant l'escalier en colimaçon, il leva machinalement les yeux vers l'étage supérieur et fut soudain troublé. Son propre visage le regardait depuis le plafond de la pièce qui se trouvait au-dessus de lui. Après quelques instants de perplexité, il se rendit compte qu'il ne s'agissait pas d'un miroir, mais d'une peinture. Intrigué, il gravit les marches.
« Harry, qu'est-ce que tu fais ? Je ne pense pas que tu devrais visiter la maison quand il n'est pas là. »
Mais Harry était déjà monté d'un étage. Luna avait décoré le plafond de sa chambre de 5 portraits magnifiques. Ceux de Harry, Ron, Hermione, Ginny et Neville. Ils n'étaient pas animés comme les tableaux de Poudlard, mais il y avait quand même en eux une certaine magie. Harry avait l'impression qu'il respirait. De fines chaînes d'or s'entrelaçaient entre les portraits, en les reliant les uns aux autres, mais après les avoir observés pendant un certain temps, il s'aperçut que les chaînes étaient en fait constituées du même mot 1000 fois répété, tracé à l'encre dorée. « Ami, ami, ami. » Harry ressentit pour Luna un profond élan d'affection. Il regarda autour de la pièce. À côté du lit, une grande photo représentait Luna, plus jeune, en compagnie d'une femme qui lui ressemblait beaucoup. Toutes deux s'étreignaient. Harry n'avait jamais vu Luna aussi soignée que sur cette image. Le cadre de la photo était poussiéreux, ce qu'il trouva un peu étrange. Il continua d'examiner la chambre. Quelque chose paraissait bizarre. Le tapis bleu pâle était lui aussi recouvert d'une épaisse couche de poussière. Il n'y avait aucun vêtement dans l'armoire, dont les portes étaient entr'ouvertes, et le lit semblait froid, peu accueillant, comme si personne n'y avait dormi depuis des semaines. Une unique toile d'araignée s'étendait d'un bord à l'autre de la fenêtre la plus proche, sur un fond de ciel rouge sang.
« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Hermione alors que Harry descendait l'escalier.
Mais avant qu'il n'ait eu le temps de répondre, Xenophilius remonta de la cuisine, portant à présent un plateau chargé de bols.
« Monsieur Lovegood, où est Luna ?» demanda Harry.
« Pardon ?
Où est Luna ?»
Xenophilius s'immobilisa sur la dernière marche.
Je vous l'ai dit. Elle est descendue à Bottom Bridge pour pêcher des boulus.
Alors pourquoi n'y a-t-il que 4 bols sur ce plateau ? Xenophilius essaya de répondre, mais aucun son ne sortit de ses lèvres. On n'entendait que le battement continu de la presse à imprimer et le léger tintement que produisait à présent le plateau entre les mains tremblantes de Xenophilius.
Je crois que Luna est absente depuis plusieurs semaines, poursuivit Harry. Ses vêtements ont disparu et elle n'a pas dormi dans son lit. Où est-elle ? Et pourquoi regardez-vous tout le temps par la fenêtre ?
Xenophilius lâcha le plateau. Les bols tombèrent, rebondirent, se fracassèrent. Harry, Ron et Hermione tirèrent leurs baguettes. Xenophilius se figea, la main prête à plonger dans sa poche. Au même moment,
Une forte détonation s'éleva de la presse à imprimer et une impressionnante quantité de chicaneurs jaillit de sous la nappe en se répandant sur le sol. Puis la machine devint enfin silencieuse. Hermione se pencha et ramassa l'un des magazines, sa baguette toujours pointée sur M. Lovegood.
« Harry, regarde ça !»
Il s'avança vers elle aussi vite qu'il le put à travers le désordre de la pièce. La couverture du chicaneur montrait une photo de lui, barré de la mention « Indésirable numéro 1 », avec en légende le montant de la récompense promise pour sa capture. « Le chicaneur a révisé sa position ?» demanda froidement Harry en réfléchissant très vite. « C'est donc ça que vous avez fait lorsque vous êtes descendu dans le jardin, Monsieur Lovegood. Vous avez envoyé un hibou au ministère. » Xenophilius se passa la langue sur les lèvres.
« Ils ont pris ma Luna !» murmura-t-il. « À cause de ce que j'écrivais dans mon journal, ils ont pris ma Luna. Et je ne sais pas où elle est, je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait. Mais peut-être qu'ils me la rendront si je...
Si vous livrez Harry, acheva Hermione à sa place.
Pas question, dit sèchement Ron. Écartez-vous, on s'en va.
Xenophilius, le teint blême, paraissait avoir 100 ans, ses lèvres étirées en un effroyable rictus.
Ils vont arriver d'un moment à l'autre. Je dois sauver Luna. Je ne veux pas perdre Luna. Vous allez rester.
Il écarta les bras devant l'escalier et Harry eut la vision soudaine de sa mère faisant le même geste devant son lit d'enfant.
« Ne nous obligez pas à vous faire mal, » dit Harry. « Écartez-vous, Monsieur Lovegood !»«
Harry !»
hurla Hermione. Des silhouettes volant sur des balais passèrent devant les fenêtres. Lorsque tous trois tournèrent la tête pour les regarder, Xenophilius tira sa baguette. Harry se rendit compte de leur erreur juste à temps. Il se jeta sur le côté, poussa Ron et Hermione hors d'atteinte du sortilège de stupéfaction que Xenophilius venait de jeter. L'éclair traversa la pièce et frappa de plein fouet la corne d'éruptif. Il y eut une gigantesque explosion. La déflagration sembla pulvériser la pièce. Des morceaux de bois, de papier, de plâtre volèrent en tous sens. Harry fut projeté dans les airs, puis s'écrasa par terre, se protégeant la tête de ses bras, incapable de voir quoi que ce soit à travers la pluie de débris qui s'abattait sur lui. Il entendit les cris, les hurlements d'Hermione et de Ron, et une série de bruits sourds, métalliques, a donné la nausée. Soulevé par l'onde de choc, Xenophilius était tombé en arrière dans l'escalier en colimaçon. À moitié enterré sous les gravats, Harry essaya de se relever. À cause de la poussière, il ne voyait plus rien et parvenait à peine à respirer. La moitié du plafond s'était écroulée, et l'extrémité du lit de Luna pendait dans le vide. Le buste de Rowena Serdaigle gisait à côté de lui, la moitié de la tête arrachée. Des fragments de parchemin déchirés flottaient dans les airs et la presse à imprimer était couchée sur le côté, interdisant l'accès à l'escalier de la cuisine. Une autre silhouette blanche s'approcha et Hermione, couverte de poussière comme une deuxième statue, pressa l'index contre ses lèvres. Au rez-de-chaussée, la porte d'entrée s'ouvrit à la volée.
« Je t'avais bien dit qu'il était inutile de se presser, Traverse !»
grommela une voix rauque.
« Je t'avais dit que ce cinglé délirait comme d'habitude !»
Il y eut un bang, et Xenophilius lança un cri de douleur.
« Non, non, là-haut, Potter !»«
Je t'ai déjà averti, Lovegood, que si tu nous faisais revenir, il nous faudrait des informations solides. Tu te souviens, la semaine dernière, quand t'as voulu nous échanger ta fille contre le stupide chapeau de ta statue ?» Et la semaine d'avant,
nouveau bang et nouveau cri.
Quand tu croyais qu'on allait te la rendre, si tu nous rapportais la preuve de l'existence, bang, des ronflaques, bang, cornu.
Non, 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 je vous en supplie,
sanglota Xenophilius.
C'est vraiment Potter, vraiment.
Et maintenant, on s'aperçoit que tu nous as appelés pour essayer de nous faire sauter,
rugit le mange-mort. Il y eut une rafale de bang ponctuée de cris de douleur de Xenophilius.
« La maison va pas tarder à s'effondrer, Selwyn !»
dit avec froideur une deuxième voix qui résonna dans l'escalier à demi démoli.
« L'escalier est complètement bloqué. Si on essaie de le dégager, tu risques de s'écrouler. »« Sale petit menteur !»
s'écria le dénommé Selwyn.
« Tu n'as jamais vu Potter de ta vie, hein? Tu croyais pouvoir nous attirer ici pour nous tuer? Et tu penses que c'est en t'y prenant comme ça que tu vas récupérer ta fille ?»«
Je vous jure !» « Je vous jure, Potter est là-haut » Hominium Revelio !»
dit la voix au pied de l'escalier. Harry entendit Hermione étouffer une exclamation et eut l'étrange sensation que quelque chose fondait sur lui, le submergeant de son ombre.
« Il y a quelqu'un là-haut, hein, c'est vrai, c'est Lupin !»
dit le deuxième homme d'un ton sec.
« C'est Potter ! Je vous répète que c'est Potter !»
sanglota Xenophilius.
« S'il vous plaît, s'il vous plaît, rendez-moi Luna, laissez-moi ma Luna !»«
Tu pourras avoir ta fille chérie, Lovegood, si tu montes là-haut et que tu me ramènes Harry Potter, » promit Selwyn. « Mais si c'est une ruse, si c'est un piège, si tu as un complice qui nous attend pour nous tomber dessus... On verra alors si on peut te garder un petit morceau de ta fille pour que tu aies quelque chose à enterrer. »
Xenophilius poussa un gémissement de terreur, de désespoir. Il y eut des bruits de pas précipités, des raclements. Il essayait de se frayer un chemin parmi les débris qui obstruaient l'escalier.
« Venez !» chuchota Harry. « Il faut que nous sortions d'ici. »
Profitant du vacarme que faisait Xenophilius, il entreprit de se dégager. Ron était enseveli sous une masse de décombres. Harry et Hermione enjambèrent les gravats le plus silencieusement possible pour arriver jusqu'à lui et essayèrent de soulever une lourde commode qui coinçait ses jambes. Hermione parvint à le libérer à l'aide d'un sortilège de lévitation alors que des coups sonores et des raclements de plus en plus proches annonçaient l'arrivée de Xenophilius.
« Très bien !» murmura Hermione.
La presse disloquée qui bloquait le haut de l'escalier commença à trembler. Xenophilius n'était plus qu'à 2 ou 3 mètres d'eux. Hermione était toujours blanche de poussière.
« Tu as confiance en moi, Harry ?»
lui demanda-t-elle. Harry acquiesça d'un signe de tête.
« Ok, » murmura Hermione. « Donne-moi la cape d'invisibilité. Ron, tu vas la mettre. »«
Moi ? Mais Harry ?»
« S'il te plaît, Ron !»«
Harry, tiens-moi bien la main. Ron, accroche-toi à mon épaule. » Harry tendit sa main gauche. Ron disparut sous la cape. La presse qui interdisait l'accès à l'escalier s'était mise à trépider. Xenophilius essayait de la déplacer en utilisant à son tour un sortilège de lévitation. Harry ne savait pas ce qu'Hermione attendait.
« Tenez-vous bien, » murmura-t-elle. « Tenez-vous bien, attention !»
La tête de Xenophilius, d'une blancheur de papier, apparut au-dessus du buffet renversé.
« Oubliette !»
s'écria aussitôt Hermione en pointant sa baguette sur le visage de Xenophilius. Puis, la dirigeant vers le sol juste au-dessous d'eux, elle ajouta
« Des primos !»
Le sortilège fit exploser le plancher du salon en creusant un grand trou. Ils tombèrent comme des rocs. Harry, toujours cramponné à la main d'Hermione, un cri s'éleva au-dessous de lui. Il vit 2 hommes courir pour essayer d'échapper au déluge de gravats et de meubles brisés qui s'abattaient autour d'eux, à travers le plafond défoncé. Hermione tournoya dans le vide et le fracas de la maison qui s'effondrait retentit aux oreilles de Harry, tandis qu'elle l'entraînait une fois de plus dans les ténèbres.